à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 31 octobre 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Trois Tchadiens ont été enlevés par des djihadistes présumés dans l'ouest du Tchad. Le Nigeria autorise la reprise d'activité de deux ONG internationales qu'il avait accusées d'aider les terroristes. Plusieurs dizaines de morts et de blessés dans un accident de train au Pakistan. États-Unis, la Chambre des représentants a voté pour officialiser l'enquête parlementaire sur l'affaire ukrainienne. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Tchad, trois personnels soignants ont été enlevés hier par des inconnus dans le département de Kaya. Les autorités de la province du lac Tchad ont accusé Boko Haram d'être derrière cette opération. André Kodmajingar nous en dit plus.
Il s'agit du médecin-chef de l'hôpital de Bagassola, un infirmier et un chauffeur, tous des Tchadiens, à bord d'un véhicule qui ont été kidnappés alors qu'ils se rendaient à Tchoukouli, une localité située au bord des rives nord de la province du lac, pour une mission de supervision de terrain. Par peur d'être rapidement localisés par les forces de l'ordre, les présumés ravisseurs ont abandonné le véhicule. Et c'est à travers le véhicule abandonné que la population a alerté le service de sécurité. Entre-temps, ils ont disparu avec eux sur le bras du lac Tchad par pirogue. Des jours de recherche n'ont rien donné, comme en témoigne le préfet du département de Kaya, Dimouya Swapa Bejon et Parvé ou Afrique.
Nous avons passé la nuit en brousse. Maintenant même, on vient de rentrer encore d'une autre mission. Nous sommes au camp, on va encore ressortir. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore une trace. Nous allons autant de jours qu'il faut jusqu'à ce qu'on les retrouve vivants ou bien morts.
C'est pour la première fois au Tchad que le personnel médical est visé dans un tel raft. Les autorités de la province du lac ont attribué cet enlèvement à la secte Boko Haram qui, selon elle, change de temps en temps de mode d'opération. Certains observateurs trouvent inadmissible que l'opération s'est produite entre deux villages où sont installées des garnisons militaires sans que le service de sécurité ne soit au courant. André Kodmajingar Ndjamena, VO Afrique.
Les États-Unis ont décidé de mettre un terme à la participation du Cameroun au programme AGOA permettant l'exportation aux États-Unis de produits des pays bénéficiaires sans droit de douane. Je prends cette mesure parce que j'ai déterminé que le gouvernement camerounais s'est rendu coupable de violations flagrantes des droits de l'homme internationalement reconnus, écrit le président Donald Trump dans une lettre adressée au Congrès. Monsieur Trump affirme que malgré la coopération entre les États-Unis et le Cameroun, son gouvernement n'a pas répondu aux préoccupations concernant les violations persistantes des droits humains commises par les forces de sécurité. Ces violations comprennent des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires et illégales et des actes de torture, écrit le président américain. L'armée congolaise a annoncé à Beni, dans le Nord Kivu, avoir lancé des opérations d'envergure contre les différents groupes armés actifs dans l'est de la RDC depuis plusieurs années. Les opérations ont été lancées à partir de Nyaleke, où l'artillerie a pilonné les positions rebelles. Les troupes au sol sont engagées depuis ce matin, a indiqué un porte-parole de l'armée dans la région. Par ailleurs, la députée Jeannette Kabila, sœur jumelle de l'ex-président congolais, a été élue à la tête de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Elle sera secondée par l'ancien ministre de la Défense, Crispin Atamatabe. Le Front commun pour le Congo, majoritaire au Parlement, a obtenu la direction de 6 commissions à l'issue des élections, d'après les documents publiés ce jeudi par le bureau de l'Assemblée nationale. Le Nigeria a autorisé deux ONG internationales à reprendre leurs activités dans le nord-est du pays après une suspension de plus d'un mois. Le gouvernement les accusait d'aide aux terroristes. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
L'annonce a été faite aujourd'hui lors d'un point presse par Sadia Farouk, la ministre des Affaires humanitaires et sociales. La suspension des deux organisations internationales, Mercy Corps et Action contre la faim, est temporairement levée, a-t-elle déclaré, tout en ajoutant que les inquiétudes et les recommandations exprimées par le Conseil vont toutefois continuer à recevoir notre attention. À la mi-septembre, l'armée nigériane avait fermé les locaux d'ACF et de Mercy Corps, accusant ces ONG d'avoir aidé et encouragé les terroristes et leurs atrocités. Selon les Nations Unies, près de 400 000 personnes souffrent de l'interruption de l'action de ces deux organisations qui les laissent sans nourriture ni autre aide essentielle depuis un mois. La semaine dernière, alors en visite au Nigeria, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, Mark Lowcock, a affirmé avoir reçu l'assurance des autorités que la suspension serait levée dans quelques jours.
Des milliers de Guinéens se sont rassemblés aujourd'hui à Conakry pour une démonstration en faveur du président Alpha Condé. Le ministre de la Communication, Amara Sompare, a fait état de 45 000 personnes réunies à la mi-journée pour accueillir le président à son retour de l'étranger. Les adversaires de M. Condé ont dénoncé une manipulation de la part du pouvoir. La contestation contre un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé a fait une dizaine de morts depuis deux semaines. Nous y reviendrons dans la partie magazine. En Algérie, des centaines de magistrats ont manifesté ce jeudi devant le siège de la Cour suprême à Alger pour une justice libre et indépendante au cinquième jour d'une grève qui paralyse la quasi-totalité des juridictions du pays. Selon le syndicat national des magistrats, presque les juges et procureurs ont cessé le travail depuis dimanche. La grève a été déclenchée par un vaste mouvement de mutation visant 3000 magistrats qualifiés de mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. 45 millions de personnes vont se retrouver en situation de grave insécurité alimentaire dans les 6 mois en Afrique australe à cause de la pire sécheresse affectant la région en 35 ans, annoncé le programme alimentaire mondial. Plus de 11 millions de personnes sont déjà dans cette situation dans 9 pays, selon le PAM.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 74 personnes sont mortes au Pakistan dans un incendie à bord d'un train déclenché par l'explosion de bonbonnes de gaz. Irénée Hermanongbo nous en dit plus.
Le train était en marche lorsque le feu s'est déclenché pour ensuite s'immobiliser dans une zone rurale du district de Rahim Yar Khan dans la province du Punjab. Les flammes ont été éteintes dans la matinée tandis que les secouristes et les pompiers s'activaient dans les wagons carbonisés. Certaines des victimes ont péri sur le coup, d'autres ont été blessées à la tête en sautant du train en feu, a déclaré Mohamed Nadim Zia, directeur de l'hôpital de Liakapur, la ville la plus proche. Une bonbonne a explosé et je ne sais pas comment le feu s'est propagé partout. J'ai sauté du train, a témoigné Mohamed Imran, un blessé rencontré à l'hôpital. Le dernier bilan est d'au moins 74 morts, selon le ministre des Chemins de Fer, Sheikh Rachid Ahmed. Adnar Sabir, porte-parole des services de secours, a pour sa part avancé un bilan de 73 morts et plus de 40 blessés.
Le groupe État islamique a confirmé la mort de son chef Abu Bakr al-Baghdadi, tué dimanche dans une opération américaine dans le nord de la Syrie. Dans un message audio posté sur l'application Telegram, il a annoncé la nomination d'un successeur du nom d'Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Le président irakien Bahram Saleh a proposé des élections anticipées dans le pays où un mouvement de contestation réclame la chute du régime après des violences qui ont fait plus de 250 morts. Monsieur Saleh a ajouté que le premier ministre Adel Abdelmahdi était d'accord pour démissionner à condition que les blocs au Parlement s'entendent sur un remplaçant. Monsieur Abdelmahdi avait déjà proposé mardi de démissionner si les partis se mettaient d'accord sur un nouveau gouvernement et un nouveau Premier ministre. La procédure de destitution menaçant Donald Trump a connu un tournant aujourd'hui après un vote à la Chambre des représentants au Congrès américain. L'enquête parlementaire sur l'affaire ukrainienne est maintenant officielle. Bagassi Koura.
La Chambre à majorité démocrate a adopté une résolution donnant un cadre formel aux investigations par 232 voix favorables contre 196. C'est notre démocratie qui est en jeu, a affirmé dans l'hémicycle la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine, a dénoncé le président américain sur Twitter juste après le vote. C'est inique, anticonstitutionnel et fondamentalement anti-américain, a renchéri la Maison Blanche. Les élus républicains, eux, dénoncent une mascarade. Le 24 septembre, Nancy Pelosi avait décidé d'engager son parti sur la voie périlleuse de l'impeachment, la mise en accusation du président après des révélations sur un appel téléphonique entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Si, à la fin de ces enquêtes, M. Trump est mis en accusation, c'est le Sénat dominé par les Républicains qui aura le dernier mot.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique à présent présentée par Nani Talani.
L'Ouganda opte pour une nouvelle politique en matière de licences. Les opérateurs de télécommunications existants se verront attribuer de nouvelles licences assorties de nouvelles conditions dans 60 jours. Elles obligent les entreprises à partager des infrastructures comme les câbles à fibre optique. Selon le régulateur, cela éliminera les doubles emplois et réduira le coût d'Internet et d'autres services. Le développement des télécommunications en Ouganda a poussé Google et Facebook à y installer des câbles à fibre optique. Le pays compte 21,6 millions d'internautes et 24 millions d'abonnés mobiles. Le groupe sud-africain MTN annule son projet de vendre sa participation de 53% dans Mascom Wireless Botswana. Cette cession devait rapporter 300 millions de dollars à MTN. La société indique que certaines conditions liées à la transaction n'ont pas été remplies, ce qui l'a conduit à abandonner le plan de cession. MTN pourrait reconsidérer sa décision si on lui proposait une offre très attrayante. Pour terminer, l'explorateur australien de pétrole et de gaz Phare annonce que le projet pétrolier SNE au Sénégal lui fournira 13 670 barils par jour.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La 7e étape du Tour du Faso a été remportée par Jonas Deering.
Oui, le Suisse a franchi en premier la ligne d'arrivée. Après les 182,5 km de course, fait majeur, le maillot jaune a changé d'épaule. Nous retrouvons Kader Traoré sur la route du Tour.
Ce jeudi, les 79 coureurs qui sont toujours dans la caravane ont bouclé la 7e étape entre Dédougou et Bobo Dioulasso. C'est la Suisse qui s'est distinguée. Jonas Deering, parti dans une échappée de 4 coureurs après seulement 10 km de course, va réaliser la première victoire helvétique. Ces fuyards du jour vont établir par moment plus de 8 minutes d'écart avec le reste du peloton. Ils ont parcouru les 182,5 km en 4 heures, 17 minutes, 5 secondes. Le vainqueur Deering, à seulement 21 ans, réalise la deuxième victoire de sa jeune carrière.
On allait jusqu'au bout, mais je ne savais pas si j'avais encore la force pour le sprint. Parce que moi, je pouvais aussi remonter au classement général.
La Côte d'Ivoire, qui régorgeait de bons cyclistes, n'est que l'homme d'elle-même sur ce 32e Tour du Faso. La bande à Abou Sanogo, Bachiro Conte et autres a démarré la compétition avec des ennuis de santé. C'est ce que nous a dit l'entraîneur des éléphants, Hassan Yoboué.
On est venus tous malades parce qu'on a mangé de la viande à part qui a fait qu'on a eu une diarrhée qui nous a considérablement gênés. C'est maintenant que les coureurs commencent à se remettre véritablement.
Le maillot jaune change de pôle. Il a été conquis à Bobo Dioulasso par l'Angolais Manuel Antonio Dario. Le Rwandais Moïse Mugisha qui le détenait est désormais relégué à la 5e place au général. Kader Traoré sur la route du Tour du Faso pour VOA Afrique.
Les 9e Jeux de la francophonie auront lieu en République démocratique du Congo.
Ainsi en a décidé la 36e conférence ministérielle de l'OIF réunie à Monaco après le retrait de la province canadienne du Nouveau-Brunswick qui a invoqué l'explosion du coût financier des Jeux. Le budget de ces Jeux a été multiplié par près de 9 de 15 millions de dollars canadiens en 2016 à 130 millions de dollars avant d'être ramené à 62 millions de dollars en 2019 par le comité organisateur. Les 8e Jeux de la francophonie tenus en Côte d'Ivoire en 2017 ont réuni pendant 10 jours près de 3 500 participants de 53 États et gouvernements de la francophonie. Les prochains Jeux auront donc lieu en RDC du 23 juillet au 1er août 2021.
Toronto rejoint Seattle en finale de la MLS.
Toronto FC s'est qualifié pour la finale du championnat nord-américain de football après sa victoire 2-1 en finale de conférence Est contre Atlanta United, tenant du titre. Vainqueur en 2017, les Canadiens, qui atteignent la finale pour la troisième fois en 4 ans, seront opposés à Seattle, battu par Toronto il y a 2 ans. Sacré en 2016, les Sounders de Seattle se sont débarrassés du Los Angeles FC 3-1 mardi en finale de conférence Ouest. La finale nationale aura lieu le 10 novembre à Seattle.
Merci beaucoup Yakuba pour cette page sportive. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. À présent, les dossiers du jour. En Guinée, le président Alpha Condé a eu droit ce jeudi à un bain de foule. Une marée humaine l'a accueilli à l'aéroport international de Bessia. Une mobilisation sur fond de soutien au projet de nouvelle constitution. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Sur un podium géant, plusieurs artistes guinéens se sont relayés pour donner une couleur festive à l'événement. C'est la deuxième grande mobilisation à Conakry en une semaine après celle des anti-troisième mandat. Pour les organisateurs, cette marée humaine est loin d'être la réponse du berger à la bergère. Banta Masso, membre du bureau politique du parti au pouvoir.
Ce n'est pas une réponse à la marche, mais c'est la réponse à tous ceux qui pensent qu'Alpha Condé n'a plus de soutien en Guinée. Aujourd'hui, nous allons prouver à la face du monde qu'il n'y a pas un homme aussi crédible qu'Alpha Condé en Guinée, il n'y a pas un homme aussi populaire qu'Alpha Condé en Guinée.
Cette autre manifestation prouve que le débat sur la nouvelle constitution divise les Guinéens. Devant une telle situation, il faut convoquer les Guinéens aux urnes pour trancher, propose Souleymane Keïta, conseiller du président Alpha Condé.
Il y a une partie de la population qui n'est pas pour la nouvelle constitution. Il y a une autre partie qui est pour, c'est la mouvance présidentielle et l'ensemble de tous les alliés. Donc nous pensons que le président étant l'arbitre a le devoir de départager la situation en convoquant le peuple de Guinée au référendum. Et dans ces conditions-là, la majorité l'emportera et le débat sera clos.
Allons au référendum ou encore oui à la nouvelle constitution, tels étaient des messages marqués sur les pancartes et t-shirts. Des mots de soutien scandés de l'aéroport jusqu'au centre-ville par des jeunes militants du RPG arc-en-ciel parti au pouvoir.
Nous demandons juste au FNDC d'aller au référendum. On n'a pas demandé autre chose.
Nous sommes là pour leur dire que nous sommes avec lui. Nous sommes là pour leur dire que nous serons avec lui. Nous sommes là pour leur dire que le combat continue.
De l'aéroport, le président Condé a été accompagné par ses militants jusqu'au palais Sérou Touré. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, nous revenons sur l'anniversaire de la révolte populaire au Burkina Faso. 5 ans après la chute de Blaise Compaoré, quel est le bilan? Comment est aujourd'hui perçu l'ancien président burkinabé? Son exil a-t-il permis une baisse de la corruption et de la pauvreté? Certains nostalgiques affirment que les attaques djihadistes n'auraient jamais eu lieu s'il était resté au pouvoir. Qu'en pensez-vous? Venez en discuter en direct sur l'antenne de VOA Afrique en appelant le 001 202 205 26 33. À votre avis, c'est ce soir à 18h05 sur VOA Afrique.
Au Niger, pouvoir et opposition vont bientôt entamer un dialogue à un an de la présidentielle de décembre 2020. Le Premier ministre Brigui Raffini l'a annoncé après une rencontre avec des représentants de l'opposition qui refusent depuis 2017 de siéger à la commission électorale et contestent le nouveau code électoral. Idriss Fall a joint à Niamey Amadou Djoubo Ali, président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République.
Le dialogue inclusif que nous avons demandé avec le gouvernement, ça fait 3 ou 4 ans qu'il y a eu une interruption de l'instance qu'on appelle le Conseil national de dialogue politique, CNDP, qui ne fonctionnait pas depuis la veille des élections d'ailleurs de 2016. Alors, en ce moment, le Premier ministre a trouvé opportun de nous rencontrer et de nous demander si nous ne pouvons pas réactiver le mouvement et revenir à la table des négociations. à la table de négociation, je dis bien, parce que nous avons toujours été demandeurs d'un dialogue inclusif pour que nous puissions nous entendre sur un minimum, ce qui n'avait pas été fait par le passé.
Maintenant, dialogue autour de quoi?
Nous avons arrêté à la réunion. Il va falloir qu'on s'entende sur un minimum, c'est-à-dire sur un ordre du jour, sur un format du nombre de personnes qui vont participer à ce dialogue et sur le contenu des mesures d'accompagnement. En l'occurrence, nous avons posé comme condition pour qu'il y ait une décrispation que le gouvernement fasse un geste fort pour permettre à la classe politique de restaurer un peu la confiance entre nous. Par exemple, en ce qui concerne l'ordre du jour, nous avons arrêté que nous allons parler de A à Z des élections, nous allons parler de la CENI, nous allons parler du CNDP, le conseil dont je vous parlais, nous allons parler de l'accès équitable aux médias d'État et nous allons parler d'un comité de suivi parce que par le passé comme par le présent, il n'y a pas de confiance, ce qui est dit n'est jamais appliqué. Il va falloir qu'on ait un comité qui va suivre toutes les décisions que nous allons prendre avec un calendrier d'exécution.
Et quelles sont les mesures de décrispation que vous souhaitez obtenir?
La mesure de décrispation concerne bien évidemment la mesure sur les prisonniers politiques, parce qu'il y en a, les mesures sur les manifestations publiques et les médias d'État. Parce que comme vous le savez, les membres du PNDS et du gouvernement peuvent s'extasier sur les médias d'État alors que nous ne pouvons même pas dire bonjour.
Amadou Djoubou Ali est président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République au Niger. Au Burkina Faso, on commémore les 5 ans de l'insurrection populaire d'octobre 2014. L'ancien président Blaise Compaoré a été chassé après 27 ans au pouvoir. Les familles des martyrs de cette insurrection attendent d'être réhabilitées dans leurs droits. Les autorités actuelles, arrivées au pouvoir fin 2015, se voient aujourd'hui confrontées au terrorisme. Le président Roch Marc Christian Kabore demande l'union sacrée des Burkinabés. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Les 30 et 31 octobre 2014 resteront des dates historiques au Burkina. Blaise Compaoré, alors au pouvoir depuis 27 ans, acculé, avait été obligé à fuir. Les violences et la répression font une trentaine de morts et plus de 300 blessés. Les familles des martyrs, depuis maintenant 5 ans, attendent que justice soit rendue. Alors que la justice traîne les pieds, certains activistes appellent l'exécutif à s'immiscer dans les affaires judiciaires.
Roch Marc Christian Kabore, il faut qu'il prenne ses responsabilités pour faire juger tous les dossiers. Les gens sont tombés. Ils sont tombés pour rien, parce que jusque-là, il n'y a rien qui est fait.
P.K. Victor, président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire de 2014.
Nous voulons la vérité, nous voulons la justice. Nous voulons nous libérer à jamais. Nous avons l'ASE qui a fait un travail remarquable. Les dossiers sont là-bas posés. Au niveau de la justice, ça ne bouge pas. Nous avons des corrompus qui sont en dehors de nos frontières, qui continuent à téléguider leur mentor au niveau du pays. Nous voulons que tout cela cesse. Roch Marc Christian Kabore Simanta, nous ne voulons plus revenir ici l'année prochaine sans que tous les dossiers ne soient liquidés, y compris les dossiers de Thomas Sankara et Norbert Zongo.
Le président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire de 2014 dénonce la situation de certains blessés.
Il y a toujours un problème. Il y a des blessés qui ont des familles aujourd'hui qui ne mangent pas. Il y a des blessés à vie aujourd'hui qui n'ont plus rien. Il y a des blessés même, ils ne peuvent même plus se rétablir. Mais ils ne sont pas pris en charge. Et même au niveau des orphelins, nous avons toujours des problèmes aussi. C'est vrai que le pouvoir a fait quelque chose, mais pas beaucoup de choses, hein. Nous attendons plutôt la justice et voir le cas des blessés aussi.
Aux côtés des familles des martyrs de l'insurrection ce jeudi, le président Kabore prône l'union sacrée. Le principal souci aujourd'hui, c'est le terrorisme.
C'est un appel que je lance toujours au peuple burkinabé pour rester soudé par rapport justement à l'île terroriste qui, depuis 2016, a commencé à faire, je dirais, tout feu sur notre pays. C'est un message de courage, c'est un message de solidarité, c'est un message que nous devons être unis quand le pays est attaqué. Parce que c'est cette unité-là qui nous a permis de sortir les 30 et 31 octobre de la situation que vivait notre pays.
Pour ces nombreuses familles des victimes, la lutte doit continuer. L'autre étape, ça sera la quête de la vérité, la justice. Le gouvernement de Roch Kabore a pris en charge plusieurs évacuations sanitaires des blessés de l'insurrection. Les regards sont depuis tournés vers la justice, qui doit faire la lumière sur ces dossiers. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les Nationals de Washington sont champions de baseball. Ils ont décroché leur premier titre de la Ligue majeure de la discipline après près d'un siècle d'attente, le dernier sacre remontant à 1922. Les rues de la capitale américaine étaient bondées de monde la nuit dernière. Yacouba Ouédraogo revient sur l'événement.
Les Nationals de Washington ont remporté leur tout premier titre de champion de baseball après près d'un siècle en voyant les fans dans une frénésie dans les rues de la capitale américaine. L'équipe a battu les Astros de Houston 6-2 dans le septième match de la série de finale. Les Astros sont entrés dans le match avec une avance de 2-0. C'est alors qu'Anthony Rendon des Nats a frappé fort pour permettre à son équipe de prendre une avance qu'elle n'a plus jamais lâchée. Le coach des Nationals de Washington nous parle de sa stratégie qui a conduit à la victoire finale. Dave Martinez.
Nous sommes restés ensemble. Ils croyaient les uns aux autres. J'ai cru en eux. Avant le match, je leur ai dit, les gars, je veux que vous considérez ce match comme tout autre. C'est le jeu 184 qui est difficile à faire. J'ai dit que nous le ferons encore. Il suffit de jouer un match de plus, 1-1 et 0 de plus, et ils l'ont fait ce soir.
Stephen Strasburg a été nommé meilleur joueur. L'équipe a réalisé un revirement étonnant. Elle a commencé la saison avec un score de 19-31. Elle est passée 5 fois tout près de l'élimination au cours de la saison. Les Nats ont finalement surmonté tout cela grâce à des sacrifices imposés par le coach Dave Martinez.
Je suis tellement fier de tous ces gars et de ce qu'ils ont fait. Je leur ai demandé de faire des choses dont je suis sûr qu'ils ne sont pas à l'aise et ils l'ont fait sans poser de questions.
En face, l'équipe perdante, les Astros de Houston, bien que déçus, restent fiers de leur parcours. Hage Hinch est leur entraîneur.
Je viens de dire à notre équipe qu'il est difficile d'exprimer à travers des mots et de se souvenir de tout ce qui s'est passé, parce qu'en ce moment, nous nous sentons aussi mal que vous pouvez le sentir. Je suis fier de ces gars, je suis fier de la saison.
Une fierté partagée par les deux équipes qui ont offert un spectacle unitaire et joyeux à la ville de Washington, consumée par des batailles politiques partisanes. Les démocrates ont initié une enquête parlementaire pour une mise en accusation du président Donald Trump. De nombreux républicains crient au scandale. Au milieu de cette tempête politique, les fans des Nationals ont trouvé des raisons d'encourager à l'unité, quelle que soit leur appartenance politique. Ali, fan des Nationals.
Je pense qu'ils rassemblent tout le monde. Tout le monde avec des opinions politiques différentes. Différents autres points de vue dans la vie.
Certains fans espèrent que ce sentiment d'unité créé par cette victoire des Nationals permettra de réduire les conflits partisans. C'est le cas de Jeff Simon.
Il devrait, après la victoire des Nationals, je pense que les deux parties devraient se réunir et être un.
D'autres comme Edinson Rolls restent par contre moins optimistes.
Je ne pense pas que cela va durer, c'est une sorte de flux et de reflux.
Cette année sportive a été prolifique pour Washington. Avant les Nats en baseball, les Mystiques, l'équipe de basketball féminin, ont remporté leur tout premier titre début octobre.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagnot et Patrick Ndéa. À la présentation, Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Restez à l'écoute avec Henri Francisque pour un rappel des grands titres de l'actualité dans quelques secondes. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Écoutez.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.